Lorsque Greg reçut sa livraison Amazon, ce fut le début d'un nouveau cycle pour lui. Ce mode éco, cette technologie anti-vibration, c'était le lave-linge de ses rêves à un prix si bas qu'il ne put résister. Ça mérite bien 5 étoiles. Des produits très bien notés à des prix que vous allez adorer. Découvrez nos offres dès maintenant sur Amazon.
Il y a une ou deux règles qui me paraissent essentielles. Ne jamais manquer de respect à une personne, ne jamais l'humilier.
On demande beaucoup plus de preuves aux femmes avant de leur faire casser le plafond de verre. Et une fois que vous l'avez cassé, vous avez beaucoup moins droit à l'erreur.
La vie invente. Et donc, il faut faire confiance à la vie et aller de l'avant.
Sur Radio Classique, vous écoutez les chefs d'entreprise parler stratégie, investissement et résultats financiers. Mais pour vraiment les comprendre, il faut aussi connaître leur parcours, savoir quels sont les grands événements qui les ont marqués et ceux auxquels ils ont participé. C'est ce que ces femmes et ces hommes viennent raconter dans ce podcast. Je suis Céline Cajoulis et vous écoutez la saison 2 de Secrets de dirigeants. Pour ce premier épisode, je vous propose d'écouter un invité exceptionnel. Habitué des programmes musicaux de Radio Classique, il joue pour la première fois dans la catégorie « économie ». Enfant, Renaud Capuçon voulait devenir violoniste skieur. Il est aujourd'hui violoniste entrepreneur. Depuis toujours, il organise, structure, programme, accompagne des musiciens. Déjà chef d'orchestre et directeur de festival, il est depuis février dernier à la tête de Beaussoir Productions, une petite entreprise dont la vocation est de promouvoir de jeunes talents, avec pour moteur deux obsessions, partager et amener la musique partout. Le 26 septembre dernier, il a aussi pris un nouveau virage en changeant de maison de disques pour pouvoir réaliser plus d'enregistrements avec les jeunes musiciens qui joue en concert avec lui.
Renaud Capuçon vient d'annoncer qu'il quittait sa maison de disques historique pour rejoindre Deutsche Grammophon. Ce nouveau contrat va permettre au violoniste de développer de nouvelles activités comme la production de contenus sonores et de vidéos, avec notamment des jeunes talents.
Changer de maison de disques, c'est une chose... je ne suis pas le premier, je ne suis pas le dernier, c'est une chose qui arrive souvent. J'ai passé plus de 25 ans enregistré chez Warner Classics et j'étais très heureux à faire beaucoup de projets magnifiques. Et puis, il y a cette opportunité maintenant d'enregistrer et de produire en fait moi-même avec Deutsche Grammophon. Donc c'est une chose nouvelle, c'est une nouvelle période, je dirais, de ma vie qui correspond aussi à une deuxième partie de vie. Je vais bientôt avoir 47 ans et c'est plein de projets qui vont être guidés par... comme toujours chez moi, par un appétit musical et un instinct musical, mais aussi avec cette idée de réunir autour de moi des jeunes talents, de les faire émerger, de leur faire ce que je dis souvent, la courte échelle, ce qui est le but de cette société Beaussoir Productions que j'ai créée il y a quelques temps. Et donc, en association avec Beaussoir Productions et avec moi, on va pouvoir construire comme ça plein d'enregistrements. Donc, c'est une nouvelle façon de faire des disques.
C'est une diversification, on dirait, en marketing.
Peut-être. En tout cas, pour moi, c'est un recentrage, puisque je vais avoir encore plus de liberté, puisque maintenant, comme on aura aussi un label Beaussoir au sein de Deutsche Grammophon, on pourra, si on veut enregistrer des œuvres modernes du 21e siècle, qui peut-être vont pas du tout se vendre, si vous voulez, d'un point de vue commercial, on sait qu'on peut le faire. Et ça, c'est formidable, parce qu'on va pas être simplement en train de penser à un volume de vente. Et je pense que c'est le grand danger des maisons de disques aujourd'hui, c'est d'être obsédé par l'idée de vendre des quantités astronomiques d'albums, ce qui est en plus paradoxal, puisqu'on sait que le marché est très complexe et qu'il va plutôt en diminuant, et de baisser la qualité. C'est-à-dire que pour chercher à vendre beaucoup, on se met à faire des choses peut-être plus banales, et puis on fait de la promo, de la grande promo, et on baisse, il y a une sorte de baisse de niveau pour à la fin avoir une obsession du chiffre, et à la fin, de toute façon, l'artiste ne touche pas grand-chose. Donc, c'est une chose qui m'amuse pas tellement, en fait. Ce qui m'intéresse dans la musique et ce qui m'intéresse dans la vie, c'est de faire rayonner la musique et les artistes autour. Et bien sûr que si un album se vend à des millions d'exemplaires, j'en suis ravi, et c'est formidable pour tout le monde. Mais je pense qu'il faut qu'il y ait une balance entre tout ça.
Vous le disiez, c'est un virage dans votre carrière. Vous devenez chef d'entreprise. Vous l'avez toujours été un peu, je pense, en mentalité. Mais là, vous avez maintenant des festivals, vous avez maintenant cette société de production, cette idée de devenir producteur aussi. Vous êtes aussi chef d'orchestre. Vous vous inspirez de certains autres grands musiciens. Je pense par exemple à Karajan, qui avait fait une partie de ce chemin-là aussi.
Alors, en fait, chef d'entreprise, c'est très bizarre parce que ça sonne pas comme je suis, en fait. Mais vous l'avez très bien dit, j'ai toujours été comme ça. Donc, en fait, je ne suis que le même que j'étais quand j'ai créé mon premier festival à Bel Air en Savoie. J'avais 19 ans. je suis exactement le même, sauf que les choses se sont un peu diversifiées et un peu étendues. C'est-à-dire que avant j'avais...
C'est pas la même échelle non plus.
C'est pas la même échelle. Mais je fais la même chose que quand j'avais 19 ans, je réunis des amis, des musiciens que j'aime pour faire de la musique et pour la transmettre au plus grand nombre. L'ADN est exactement le même, sauf que j'avais 19 ans et c'est vrai qu'avec le recul, c'était quand même assez étonnant de créer un festival si jeune avec des immenses artistes tout de suite. Et maintenant j'en ai 46 et finalement, encore une fois, c'est la même ligne, mais qui est un petit peu plus développée et un peu plus étoffée.
Mais vous pensez que ça vient d'où, cette envie ?
Je peux pas vous le dire. Je pense qu'il y a une, comme je dis parfois, une fringale de musique qui est permanente. Et surtout, une volonté de, d'abord, d'être dans l'action tout le temps. Ça, c'est une chose c'est une sorte d'atavisme, je dirais presque, qui correspond à ce que je suis. Je suis comme ça. J'ai besoin d'être dans l'action en permanence. Et comme...
Oui, vous avez jamais marché, vous avez couru tout de suite.
Non, j'ai marché quand même. Non, et je marche souvent. Non, si on prend cet exemple, c'est vrai que ça donne l'impression de courir tout le temps. Et en fait, pas du tout. Le grand paradoxe là-dedans, il est que plus je vieillis, on va dire plus je mûris, et plus je prends le temps. Et moins je suis stressé. Et plus j'ai d'activités, plus j'ai l'impression d'avoir du temps. Ce qui est quand même assez étonnant. J'étais 1000 fois plus stressé à 20 ans avec un calendrier qui était beaucoup moins rempli que je ne suis maintenant. Parce que j'ai appris à m'organiser, etc. Mais pour en venir à votre question, je pense que au-delà des exemples, vous parlez de Karajan. Oui, Karajan a été quelqu'un qui a fait énormément. Mais quand on prend quelqu'un comme Bernstein, il a fait aussi énormément de choses. C'est quelqu'un qui composait, qui dirigeait, qui écrivait, qui faisait des choses pour les enfants. Enfin, je pense que vous avez des personnalités. Et aujourd'hui, je pense évidemment à Daniel Barenboim, qui est une personnalité qui est non seulement pianiste, chef d'orchestre, qui a créé son orchestre de jeunes, qui a créé cette fondation, la fondation Saïd Barenboim à Berlin, qui aide des jeunes, qui les enseigne. Il a créé cet orchestre de Divan. Donc vous avez des personnalités qui construisent et vous avez d'autres personnalités qui sont simplement des artistes qui jouent et qui font ce métier-là extraordinairement. Et il n'y a pas plus ou moins, c'est juste une question de personnalité.
Depuis 2 ans, vous êtes aussi chef d'orchestre. Est-ce que vous réussissez à prendre autant de plaisir à diriger des gens qu'à jouer ?
Alors ça, c'est aussi une chose qui change dans la deuxième partie de ma vie. Et c'est pas pour rien, je pense que tout vienne un peu en même temps. J'aurais jamais imaginé avoir des émotions et des sensations comme ça en dirigeant sans mon instrument. Parce que j'ai beaucoup joué et dirigé du violon, mais je restais toujours violoniste, avec le violon entre les mains. Depuis 3 ans où je dirige sans mon instrument, ce qui était une des choses les plus difficiles que j'ai fait de ma vie, de franchir ce pas psychologique, j'ai des sensations que je n'ai jamais eues avec mon instrument. Et c'est presque... Je me dis, mais c'est fou quand même. Alors que ça fait 40 ans que je joue du violon. Cet été, j'ai dirigé de Ma mère loi de Ravel ou... là, le deuxième concerto pour cœur de Richard Strauss. Et la sensation, cette espèce de sensation d'être au cœur de la musique encore plus que quand on est musicien.
Oui, mais là, c'est physiquement au cœur de la musique en
voilà.
plus.
Ouais. Alors, ça paraît paradoxal parce que moi qui joue quand même du violon depuis tant d'années, quand je joue un quatuor avec piano de Brahms ou quand je joue le concerto de Sibelius, on est quand même dans le cœur du réacteur. On est au centre de la musique et on a des sensations extraordinaires, ça je peux vous le garantir. Et je continue à jouer du violon et je continuerai jusqu'à la fin. Mais c'est autre chose. Et je dis en ce moment à mes potes qui me disent « Mais alors comment tu vis ce changement un peu ?» Je leur dis « En fait, j'ai l'impression d'être un violoniste de 47 ans, enfin 46, et d'être un chef d'orchestre de 18 ans. » Et donc, d'avoir une double personnalité, à de me séparer en deux. Quand je suis chef d'orchestre, j'ai une sorte de candeur, d'innocence et de volonté d'apprendre, comme quand j'avais 18 ans. Et c'est assez fascinant et surtout c'est grisant pour... ça vous donne une pêche incroyable.
Est-ce que vous vous dites un jour que vous abandonnerez peut-être le violon pour n'être plus, entre guillemets, que chef d'orchestre ?
Pour ça, il faudrait vraiment que j'ai des problèmes physiques qui m'empêchent de jouer du violon.
Ce sont des choses qui arrivent.
Oui, ça arrive, bien sûr, ça arrive. Ça peut être du rhumatisme, ça peut être des problèmes de tendinite. Bon, Dieu merci, j'ai jamais eu ces choses-là jusqu'à aujourd'hui. Et j'espère que ça m'arrivera le plus tard possible. Mais je pense que la seule raison pour laquelle je délaisserais l'instrument serait pour une raison d'empêchement. Mais j'ai tant de choses à apprendre et j'ai tellement de bonheur à jouer du violon et à le partager que c'est pas du tout une chose qui est imaginable.
Et quand vous êtes à la tête d'un festival comme le festival de Pâques à Aix-en-Provence ou celui de Gstaad, est-ce que vous arrivez aussi à trouver un plaisir
Ah ben ce n'est que du plaisir, autrement je le ferais pas. En fait.
Mais c'est très différent en intensité, c'est vraiment des choses qui n'ont rien à voir.
Ça n'a rien à voir et en même temps ça reste sur la même ligne du partage de la musique. Quand je programme, je réfléchis à quel interprète. En fait, en permanence, je suis en train de programmer. Ça fait depuis que j'ai 19 ans que je passe mon temps à programmer, puisque.
Ben c'est en ça que vous êtes un chef d'entreprise, naturellement.
Peut-être. En tout cas, j'ai une envie de mettre les gens en relation, de les faire jouer ensemble, de découvrir de nouveaux répertoires. Et ce qui est la notion de plaisir, elle est totale, parce que dans le fait de réfléchir à un programme, vous avez moi je suis quelqu'un de très organisé, donc il y a cette partie organisationnelle, mais il y a surtout la partie créatrice, parce que. Comme je ne compose pas de musique, et que je ne composerai jamais, parce que j'ai pas le talent pour ça, le fait de composer un programme, alors c'est bien, bien plus modeste que d'écrire de la musique, bien sûr, mais on est quand même dans une forme de composition, comme un grand chef va faire un cuisinier va préparer un menu et imaginer les choses. Et ça, c'est grisant en fonction du lieu. Donc, je programme pas du tout de la même façon au Festival de Pâques d'Aix-en-Provence que je ne programme au Festival de Gstaad. Parce que je suis inspiré par le lieu, parce que
Non, mais Gstaad, on vous a vu arriver. Quand vous étiez petit, vous vouliez être quoi? Skieur
ah oui, skieur.
Et violoniste.
Oui, c'est vrai que ça correspond. Mais il y a une forme de, si vous suivez un peu la ligne de ma vie, il y a une forme de logique. Je suis pas, les endroits où je vais sont des endroits qui correspondent à ce que je suis, d'une certaine façon. Il y a une forme de cohérence. Après, en tout cas, c'est moi qui la vois. Peut-être on la voit pas, mais moi je la sens. Et le fait de programmer des festivals, c'est un bonheur immense. Et quand vous avez pensé à un artiste en association avec un orchestre, ou quand vous avez pensé à mettre des jeunes avec des moins jeunes pour jouer, et que tout d'un coup, deux ans après, vous êtes assis dans la salle et que vous les accueillez et qu'ils jouent,
Et que ça marche.
Ça, c'est un plaisir immense. Et c'est une autre façon de vivre la musique. Vous êtes dans ce cas-là un peu plus détaché, même si vous êtes responsable, parce que si ça marche pas, c'est votre responsabilité aussi. Donc, il y a cette notion-là. Et puis, ça me donne aussi l'occasion d'inviter mes collègues violonistes que sinon je ne croiserais quasiment jamais. Parce que on est tout le temps sur la route, on a très peu d'occasions de se rencontrer, donc on se voit programmer la semaine avant, trois semaines après. Donc on s'appelle, on dit « Ah, t'es là », etc. Mais là, dans ces festivals, je peux les inviter, aller dîner avec eux, les écouter. Et ça, pour moi, c'est un grand plaisir. C'est un bonheur immense d'avoir accueilli Guy Cham, Guy Don Kremer, Lisa Batiashvili, bientôt Nicolas Snyder. En fait, tous les grands violonistes d'aujourd'hui sont venus dans ces festivals. Et je pourrais pas m'en passer.
Et ils viennent chez un copain.
Oui, en tout cas, moi, je les accueille parce que je les admire.
255 concerts par an, c'est ça, 250?
Non.
Ça, ah, pardon.
Ah non, ça serait trop, ça.
250 jours par an, loin de la maison.
Ça, je sais pas, j'ai jamais compté.
Je crois qu'il y a quelqu'un qui vit avec vous qui a compté.
C'est possible. Non, mais je pense qu'elle a exagéré. À une époque où je jouais un peu plus, avant Covid, j'étais à 150 concerts par an. Donc, ça faisait beaucoup. Et peut-être, ça faisait ce nombre de jours pas à la maison. Mais, je crois que l'essentiel, c'est d'arriver à trouver un équilibre entre sa vie familiale et sa vie musicale, ce qu'on a trouvé. On a notre façon de faire. Ma femme et mon fils me rejoignent souvent dans des endroits où on se pose. On a des plages ensemble. Je joue beaucoup plus en Europe qu'aux États-Unis, donc je suis quand même très près, et je suis quelqu'un qui a pas du tout peur de me lever très tôt et de dormir très peu. Donc, très souvent, je rentre pour une journée, et ça donne, vous savez, à ces journées, une intensité étonnante, parce que quand vous avez 24 heures à passer en famille, et vous savez qu'ensuite vous repartez 4 jours, et que vous avez ensuite une autre 24 heures, bah, vous les vivez pas de la même façon que si vous êtes dans un quotidien qui est tous les jours, vous partez, on se voit ce soir, et ça crée aussi peut-être une forme d'attente, et de ça, en tout cas, on est bien.
C'est pas difficile d'être souvent seul quand même?
Non, parce que d'abord, vous avez besoin dans une vie où vous êtes entouré tout le temps, sur scène, vous avez des interviews, vous avez des choses à organiser, vous voyez des gens beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et donc, la solitude, elle est, en tout cas chez moi, nécessaire et comme une sorte de soupape de liberté. Parfois, dans des journées où j'ai des réunions ou des répétitions avec orchestre, ensuite des cours, et je me retrouve à 22h pour la première fois depuis 6h du matin seul. Je peux vous dire qu'on souffle et on est heureux d'avoir une heure ou deux à manger une soupe dans sa chambre d'hôtel.
Vous me parlez de votre violon qui passe beaucoup de temps avec vous, vous passez beaucoup de temps avec lui, qui est très proche de vous forcément. Il a un petit nom.
Oui, il s'appelle le Vicomte de Panette parce qu'il a appartenu à ce vicomte. Il a été fabriqué par Guarnarius del Gesù en 1737. C'est un des plus beaux spécimens de ce luthier. C'est une chance incroyable de jouer ce violon. Il se trouve qu'il a été joué par Isaac Stern aussi pendant 50 ans et parmi quelques autres violonistes, mais c'est le plus fameux qui l'ait joué. Et puis c'est un violon qui m'inspire. Voilà, c'est tout. Je pense que c'est un violon qui me donne la possibilité de m'exprimer au mieux, qui a une capacité de résistance au climat, au changement de température incroyable. En ce sens, je pense que Stern, qui a joué 50 ans partout dans le monde, l'a vraiment bien éduqué ce violon, parce qu'il est, totalement, il est dans une forme incroyable. Et il y a des jours où le matin, je trouve qu'il sonne un peu bizarrement, mais toujours au moment du concert, il y a une sorte de, c'est comme si il se réveille, quoi. C'est extraordinaire.
Comment vous l'avez rencontré?
Je l'ai rencontré, la banque suisse italienne à l'époque, qui n'existe plus maintenant, mais avait l'intention d'acheter un instrument pour me le prêter, et donc ils m'ont demandé de me renseigner sur la possibilité d'acheter un Guarnarius, et j'en ai essayé quelques-uns, et un jour j'ai essayé ce fameux Vicomte de Panette, et pour être très franc, le fait même de savoir que j'allais l'essayer, j'étais déjà très excité avant. Enfin, il y avait une
parce
sorte
que c'était
de...
celui de Stern.
Parce que c'était celui de Stern, que c'était un des sons que j'adorais, mais j'ai eu la même appréhension avec celui de Menuhin, et finalement j'ai pas eu le même choc, et donc oui, ça a été un moment, un des moments qu'on n'oublie pas, où en quelques secondes j'ai su que ce violon en tout cas correspondait à ce que j'étais comme personne.
Il y en a deux dans votre étui, non, des violons?
Oui, il y en a deux. En ce moment on me prête un Stradivarius de 1727,
oui, c'est pas mal aussi.
Qui s'appelle le Régnier, et qui appartient à LVMH, qui est à ma disposition.
Et comment on fait pour choisir lequel des deux on utilise en concert?
Alors, c'est une bonne question. Et d'ailleurs, je vais donner un récital à la Fondation Louis Vuitton en mars, où je jouerai les deux violons en alternance pour un concert autour des sonates et partitas de Bach. Et l'idée est de justement, avec le même interprète, l'idée est que le public entendre la différence et leur expliquer aussi. Donc il y a aussi une partie pédagogique que je trouve assez passionnante, parce que le public ne sait pas forcément la différence.
On ne ressent pas ce que vous ressentez,
voilà,
c'est
alors,
sûr.
Alors, il va y avoir ce que l'artiste ressent, mais le public va entendre la différence, entendre une différence de voix, une différence de timbre, une différence. C'est un peu comme une dégustation où on aurait un Bordeaux et un Bourgogne dans le même dîner, c'est un peu ça, mais du top niveau, quoi.
Est-ce qu'un jour vous imaginez que ce violon, il ne vous appartiendra plus?
C'est une chose que, à la fois, qui est totalement claire dans ma tête, parce que ce violon m'appartient et puis il sera joué ensuite par quelqu'un d'autre, ou après ma mort, ou avant si j'arrête de jouer et que je décide de vendre le violon, mais donc le plus tard possible. C'est un vrai sujet qui est quand même assez perturbant, je dois dire. Si j'évite d'y penser. Là, vous me posez la question, j'y pense. Je pense que là, l'acheteur potentiel ou la personne qui le jouera sera vraiment important. Ça me rendrait très triste de savoir que le violon, par exemple, est acheté et qu'il est mis dans un
qu'il
coffre, ou qu'il n'est pas joué, ou qui va à un violoniste que j'admire pas du tout. Voilà, ça me poserait problème. Mais c'est bien trop tôt pour y penser.
Ça vous arrive de ne pas jouer plusieurs jours de suite?
Oui. Oui, il y a 15 jours, j'ai fait une chose que je n'avais jamais faite. J'ai dirigé un concert où je n'ai pas joué de violon. C'était la première fois que je ne faisais que diriger, ce qui est très banal en soi, mais pour moi c'était nouveau, parce qu'avant j'avais toujours partagé les deux. Et donc j'ai pas touché à mon violon pendant 5 jours, et le lendemain j'ai rejoué, voilà. Mais j'ai pas eu le temps du tout de
et vous en avez pas voulu?
Lui, je sais pas s'il m'en veut, je crois pas. Je pense qu'il sait bien qu'il se repose aussi. Et plus sérieusement, c'est très salutaire, ces pauses. C'est merveilleux, parce que vous avez un rapport à l'instrument qui est totalement... C'est comme faire un petit détox. C'est comme si vous buvez ou vous mangez des choses que vous aimez tout le temps, et puis tout d'un coup, vous arrêtez d'en manger pendant une semaine, et après, c'est encore meilleur.
Il y a une femme extrêmement importante dans votre existence, c'est votre épouse, Laurence Ferrari. Quand vous vous êtes rencontrés, je raconte pas votre rencontre, c'est un conte de fées, ça va déprimer tout le monde. Quand vous vous êtes rencontrés, elle est pianiste, donc elle connaît l'univers de la musique. Vous ne connaissiez pas le sien, qui est celui des journalistes de la communication, de la télévision. Qu'est-ce qu'elle vous apporte et en quoi elle contribue à votre carrière?
Ben ça, c'est l'alchimie entre deux êtres. On se le disait encore il y a pas longtemps. On peut pas tellement expliquer pourquoi on est totalement en phase avec quelqu'un. Voilà, alors on vient tous les deux de la Savoie, on a tous les deux
Vous avez les mêmes références.
On a les mêmes références.
Vous avez le même terroir.
Oui, on a le même terroir. On a aussi les mêmes. On a nos ancêtres venaient d'Italie aussi, donc des enfants d'immigrés italiens. Mais au-delà de ça, je pense que c'est la rencontre de deux âmes et deux êtres qui se complètent. Et c'est vrai qu'elle est d'une immense importance dans mes choix, je dirais pas artistiques, mais dans mes choix de vie et d'orientation et de choix de choses. Et pour ce qui est de la direction d'orchestre, par exemple, elle est la raison pour laquelle j'ai réussi à franchir le pas. Sans elle, je serais encore en train de repousser de 10 ans en 10 ans en me disant que je ne suis pas encore capable. Je pense que c'est important d'avoir quelqu'un qui sait à la fois vous remettre à votre place, parce que c'est des métiers où on a tellement de gens qui vous flattent toute la journée. La plupart du temps, ce sont des flatteurs du dimanche ou des flatteurs pour vous demander quelque chose. Donc, faut être très lucide là-dessus. Mais il faut être, on est entouré par des gens qui vous disent toute la journée que vous êtes génial, en fait.
Voilà. Oui, et au bout d'un moment, on peut finir par le croire.
Et je pense que il y a certaines personnalités. Bon, moi, je suis déjà d'une nature, j'ai beaucoup de protection là-dessus. Donc, il faut vraiment, vraiment, faudrait vraiment que j'aille pas bien pour que je pète un câble. Mais, en tout cas, Laurence a toujours su, dans des moments où il pouvait y avoir une tentation de, toujours su me remettre à ma place. Et d'un autre côté, me rassurer, parce qu'un artiste doute tout le temps, et moi je suis quelqu'un, même si peut-être ça ne se voit pas ou ça ne se sent pas, je doute beaucoup, 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 et tout le temps, depuis toujours. Ce qui me rassure, c'est la musique, je pense. Ce qui me rassure, c'est elle, c'est sa voix, c'est ses conseils, c'est le fait qu'elle me dise, mais non, parfois avant des concerts, vous avez un... Bah, le track, c'est avant chaque concert. Donc, il y a des concerts où vous êtes tout roule, et puis il y a des concerts où vous avez un track hallucinant. Et vous savez pas pourquoi. C'est très étrange, le track.
Et c'est le même quand vous jouez et quand vous dirigez?
Non, c'est pas le même. Mais c'est pas le même, mais c'est... je peux vous dire que j'ai des gros, gros tracks avant de rentrer sur scène avec ma baguette sans mon violon. Et elle me rassure.
J'ai quelques petites questions pour terminer. Là, vous venez de sortir un disque dans lequel il y a, vous jouez les quatre saisons de Vivaldi, entre autres, il y a deux autres morceaux avec. Les quatre saisons, c'est un tube, c'est un gold, tout le monde les connaît. Pourquoi vous vous êtes attaqué à ce monument? Qui est à la fois un monument et à la fois un truc tellement galvaudé.
Oui, alors voilà. Pourquoi je ne l'ai pas joué jusqu'à maintenant? C'est parce que justement, je considérais que c'était totalement galvaudé, que tout le monde le jouait, qu'on entendait dans le métro, dans les répondeurs téléphoniques, par des bons, par des mauvais. Enfin voilà, ça me sortait par les yeux. Et je m'étais dit, c'est un truc que je ne jouerais pas. Et puis, je l'ai joué il y a 3-4 ans, avec des jeunes musiciens. Et en fait, j'ai trouvé. J'ai juste réaliser à quel point l'œuvre était génialissime et à quel point elle était communicative et à quel point elle était jubilatoire. Et j'ai eu l'envie de l'enregistrer. Donc, on l'a fait avec l'Orchestre de Chambre de Lausanne, qui est l'orchestre dont je m'occupe actuellement et qui est un orchestre composé de merveilleux musiciens qui sont à la fois extrêmement généreux dans leur façon de travailler, qui ont une magnifique sonorité. Et on s'est vraiment éclaté. C'était un des moments, c'est un disque live qui a été enregistré à Lausanne. Il est complété par deux concertos du Chevalier de Saint-Georges, qui est un compositeur des années, juste avant Mozart, et qui était considéré comme le Mozart noir. On a dit ça à l'époque, on l'appelait comme ça, ou le Mozart africain. Et, c'est un compositeur qui clairement, a eu beaucoup de succès de son vivant, qui était aussi un champion d'escrime, enfin une personne très très fantasque, avec beaucoup de succès auprès des femmes apparemment, et une sorte de grand comme ça, une personnalité très très avenante, et qui a été sinon oublié, en tout cas le temps qui a passé depuis sa mort il y a quelques siècles, on peut pas dire qu'il a eu la même destinée que Mozart, voilà. Et donc j'ai trouvé que c'était intéressant de le mettre en lumière, et dans ces concerts, donc c'était des concerts live, je jouais en alternance une saison et un concerto de Saint-Georges. Donc le disque résulte de ces concerts.
Un concert, c'est de l'émotion, c'est forcément de l'échange, de l'amour, c'est extrêmement dense quand on est dans la salle. J'imagine que quand on est sur scène, c'est encore plus dense, c'est rassurant, vous le disiez. Comment est-ce que vous vivez les périodes où vous ne faites pas de concert? Est-ce que c'est comme un coureur de fond, un grand sportif qui, quand il court plus, il a plus l'adrénaline et ça lui manque?
Alors, non, pas vraiment. D'abord, je m'arrête pas énormément, mais quand je m'arrête, et ça m'arrive quand même plusieurs fois dans l'année, donc il y a d'abord des périodes courtes où je m'arrête 3 jours, 4 jours, où je joue pas. Ça m'arrive quand même souvent dans l'année. Ça, c'est totalement nécessaire et le violon me manque absolument pas. Et dans les périodes avant Covid où j'arrêtais l'été 3 semaines complètement, j'étais étonné de voir à quel point, ça c'est une chose que j'ai appris à faire, parce que j'étais pas capable avant, donc j'ai appris à m'arrêter longtemps. C'était une période quasiment sans musique, en fait, où bah, s'il y avait un concert à écouter, pas loin, j'y allais, mais je faisais mille et une autres choses.
Ça veut dire que vous n'écoutez pas de musique pendant plusieurs jours? Même avec un support, un
disque.
Ouais,
quand même. Alors, c'est vrai que quand je suis dans ma maison, maintenant dans le sud, dès le matin, l'été, je mets de la musique, mais j'écoute autre chose. J'écoute du jazz, j'écoute du Bach, j'écoute. Je vais pas écouter des concertos pour violon, par exemple. Je vais m'asseoir à mon bureau et écouter une œuvre que j'ai envie de découvrir. Mais c'est plus dans une, encore une fois, la curiosité. Mais tout ça pour dire que je pense que de s'arrêter, c'est génial et j'ai pas du tout d'angoisse. Si maintenant on m'interdisait de jouer, si on me disait non, maintenant pendant 2 mois vous ne pouvez pas jouer, ce qui a été un peu pendant le Covid. Mmh. Alors c'est pour ça qu'on a chacun fait un peu, on a bricolé des choses chez soi, à jouer pour les réseaux sociaux, pour avoir une façon de transmettre des choses. Mais certains ont enregistré des disques, certains ont travaillé comme des fous, d'autres ont pas du tout travaillé. Chacun a géré cette chose différemment. Mais là, on était dans l'impossibilité de s'exprimer. Donc ça, c'était très frustrant. Quand on décide de ne pas jouer ou de passer un mois à faire autre chose, c'est super enrichissant.
Est-ce que vous savez ce que vous ferez dans 10 ans ou dans 20 ans?
Moi, dans 10 ans, clairement, je pense à peu près la même chose. À peu près la même chose. Ça me rend tellement heureux de partager la musique, de le faire, encore une fois, avec cette nouvelle étape de la direction d'orchestre. Maintenant, il y a tellement d'œuvres que j'ai envie d'aborder, de découvrir. Vous disant, oui, ça va passer très très vite. Malheureusement, ça passe trop vite. Et je dirais 20 ans pareil, parce que le répertoire de chef d'orchestre, c'est il faut une vie. Donc
vous êtes quelqu'un de brillant, vous êtes quelqu'un de connu. J'imagine que dans le milieu de la musique classique, ça doit créer de la jalousie.
Possible.
Vous n'en entendez pas parler. Ça vous revient pas. Vous ne voyez
si,
pas des choses.
Si, ça me revient. Si, je vois des choses, bien sûr. Mais en fait, ça m'a beaucoup touché une période de ma vie. Beaucoup heurté, en fait. Et j'ai décidé depuis le Covid, ou depuis la période du Covid, où il y a vraiment eu des excès de... comment dire? Il y a eu des lignes rouges dépassées dans les insultes. Et voilà, on est allé aux insultes, à la diffamation. Donc, depuis ce moment-là, ce qui m'a totalement, en fait, scié, ça m'a scié. Cette haine verbale, écrite, assumée par des collègues, hein, par des gens qui jouent le même instrument que moi, ça m'a scié et en même temps, ça m'a donné la capacité de passer vraiment à autre chose. Et depuis, je dois dire que j'en ai plus rien à faire, mais à un point que vous pouvez pas imaginer. Et ça m'a donné une liberté. En fait, je pense que je peux les remercier. Parce que grâce à eux, on est allé tellement loin que ça dépasse l'entendement et en fait, j'ai plus pitié pour eux que de la peine pour moi. Moi, je trace ma route. J'aime cette vie de musicien et rien ne m'arrêtera parce que je fais la musique comme une nécessité absolue de vie et je pense que dans mon sillage, j'entraîne à la fois des jeunes musiciens, on parlait de Beaussoir Productions tout à l'heure, mais j'emmène des musiciens de plusieurs générations, des musiciens qui pourraient être mes parents, qui ont un âge donc avancé, et avec eux aussi on fait des choses merveilleuses, comme Gérard Cosset ou d'autres, et tout ça me donne une joie incroyable, et c'est tellement loin de ces considérations crasses, qui sont même pas dignes du caniveau, on est en dessous du caniveau, donc qu'ils y restent.
J'ai une dernière question alors pour vous. Je sais que ça va être très difficile, mais je la pose à tous les invités. Est-ce qu'il y a une chanson, un air de musique que vous aimez bien, qui vous suit? Vous, j'imagine qu'il y en a beaucoup. Est-ce que vous pouvez en choisir un pour aujourd'hui?
Et une chanson, quelque chose qui ne soit pas classique, forcément.
Ce que vous voulez.
Ce que je veux. Alors, je vais dire peut-être la musique de Cinéma Paradiso, mais pas jouée par moi, parce que ce n'est pas le but, mais la bande originale du film. Parce que c'est vraiment une musique qui nous lie, mon fils et moi. Et donc, c'est à ça que je pense.
Il joue du violon, votre fils?
Il a joué un peu de violon, il joue un peu de piano maintenant. Il a un rapport à la musique très décomplexé, très libre. Donc, on verra ce qui va se passer plus tard. Mais en tout cas, il adore cette musique. Et dès qu'on entend, et l'un et l'autre, les premières notes de cette musique du film Cinéma Paradiso, on sait qu'on est liés et ça, c'est très touchant.
Merci à Bertrand Dermoncourt, directeur général de Radio Classique, pour son aide, sa confiance et sa bienveillance. Et merci à Quentin Zimmermann pour avoir rendu cet entretien possible. Merci également à Mathieu Roch-Lago pour la mise en onde et à Béatrice Mouedine pour la mise en ligne. On se retrouve dans 2 semaines.